BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est votre pile électrique de l'après-midi, BFM Bourse, on vous accompagne chaque jour au rythme des marchés. Bienvenue à tous, Étienne Braque, depuis la tour Euronext, nous accompagne également la séance dans les yeux de l'intérieur. Rebonjour Étienne, comment ça se passe pour le CAC 40?
Bonjour à tous. Eh bien écoutez, malgré une ouverture en hausse de Wall Street il y a un peu plus d'une demi-heure, le CAC 40 reste dans le rouge, avec toujours une très faible volatilité pour l'instant. L'indice perd 0,3% sous les 8100 points à 8080 points et le solde hebdomadaire est malheureusement négatif.
C'est la macroéconomie qui pèse, c'est la grande revanche de la macroéconomie cette semaine. On se disait depuis quelques semaines, les entreprises prennent le pouvoir et on pensait en voir l'aspect le plus spectaculaire avec Nvidia. On se disait avec Nvidia, la hausse attendue d'Nvidia, la hausse effective d'Nvidia, on disait les indices vont décoller grâce aux entreprises. Mais non, pas du tout. Cette semaine aura marqué la revanche de la macroéconomie sur la microéconomie. C'est la macro qui pèse sur l'ambiance de marché. Aujourd'hui, on a des indicateurs américains qui font craindre une persistance de l'inflation. Hier, c'était les PMI. Aujourd'hui, ce sont les commandes de biens durables qui ressortent largement supérieures aux attentes. On va en parler, bien sûr, avec nos experts. On suivra aussi, bien sûr, Total Energy, puisque Paris restera la capitale boursière de Total Energy. Sa cotation principale restera finalement à Paris. Voilà ce qu'assure Patrick Pouyanet, alors qu'il avait plutôt dit l'inverse quand même il y a quelques jours. On tentera de démêler le pataquès autour de Total Energy dans un instant avec Thierry Gauthier depuis GSD Gestion. Et puis l'intelligence artificielle, les Sir Williams, les stars du tennis mondial, les Sir Williams montent au filet. On vous propose une spéciale sport business dès 17h dans moins d'une heure. Vous pourrez suivre en effet en direct et en intégralité la conférence des Sir Williams depuis le salon Vivatech, dont nous sommes BFM Business partenaires. L'intelligence artificielle en effet monte en puissance aussi dans le sport. La présence des Sir Williams à Vivatech apporte de la visibilité sur l'utilisation de la tech dans le sport de haut niveau. Les athlètes investisseurs représentent, tenez-vous bien, la troisième source de financement de la tech dans le sport. Et les Sir Williams donc en direct sur notre antenne BFM Business dans un peu moins d'une heure. Ne ratez pas ce rendez-vous à la radio, à la télé, sur nos réseaux sociaux. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On évoquait aussi aux États-Unis la guerre des burgers avec John Plassard, Burger King qui vient tailler des croupières à McDonald's. McDonald's qui parle d'un menu à venir à $5 seulement aux États-Unis face à l'inflation. En effet, un menu low cost proposé par McDonald's. Sauf que Burger King va tenter de lui tailler des croupières en annonçant le même type de menu avant. C'est-à-dire que le menu de Burger King sortira avant celui de McDonald's. John nous en parlait en direct. Si vous avez raté le direct de USA Today, il est à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse, puis dans la rubrique USA Today. John Plassard donc, mais c'est Étienne Braque, son prénom et son nom. J'allais vous appeler John, Étienne. Étienne est avec nous donc. Alors que sur les marchés, on a du mal à monter au filet en l'occurrence, contrairement au Sir Williams, donc à écouter en direct tout à l'heure sur BFM Business à partir de 17h. Le CAC 40, au contraire, joue en fond de cours aujourd'hui, cet après-midi. Il recule de 0,3%.
En effet, sous les 8100 points, 8079 points, alors que Wall Street est dans le vert après une séance compliquée hier, notamment pour l'indice Dow Jones, qui à 22h a vécu sa pire clôture depuis mars 2023 avec une baisse de 1,5%, avec beaucoup de doutes depuis quelques jours par rapport au calendrier de baisse de taux. On l'a vu avec les minutes de la Fed mercredi soir, avec hier des données macroéconomiques qui montraient que l'économie américaine était robuste, et puis même en Europe, dans une moindre mesure, avec des données d'inflation qui remontent d'une façon plus importante que prévu. Suite à cela, vous avez l'obligataire qui freine un petit peu, et puis des marchés qui sont un petit peu en manque de catalyseurs pour aller plus loin après avoir touché plusieurs records historiques, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis. À souligner que sur l'ensemble de la semaine, pour l'instant, vous avez un CAC 40 qui cède 1%, semaine négative, après déjà un moins 0,6% la semaine dernière. Du côté des valeurs, à souligner aujourd'hui dans cette séance, Renault qui prend un peu plus de 4% à la porte des 50 euros, qui continue son comeback. C'est l'une des plus fortes hausses depuis le début de l'année dans l'indice parisien, avec notamment les brokers de UBS qui voient encore beaucoup de potentiel sur la valeur. Vous avez Téléperformance qui prend 2,7% avec le groupe qui a annoncé vouloir annuler 3 millions d'actions, ce qui va forcément soutenir le cours dans les prochains jours. 106 euros à l'instant pour Téléperformance. Et puis à l'inverse, vous avez le secteur aéronautique qui perd du terrain après notamment la baisse de 6% de Boeing. Vous avez Airbus qui perd 1,5%, Safran moins 1%, ou encore Thales qui perd 1,4%. Le tout donc dans une tendance négative avec un CAC 40 qui cède 0,26%, 8081 points et puis surtout de faibles volumes d'échanges, 930 millions d'euros. Rendez-vous compte, depuis lundi, à chaque fois, on était sous les 3 milliards d'euros négociés au CAC 40, ce qui historiquement n'arrive pas trop en ce moment, c'est plutôt en période estivale.
Effectivement, des volumes décidément toujours plus faibles, plus bas. Thierry Gauthier est avec nous depuis les bureaux de GSD Gestion. Bonjour Thierry.
Bonjour,
on est ravis de vous retrouver. Alors, au cœur de l'actualité boursière du jour, il y a quand même l'Assemblée Générale de Total Energy. Aussi, Patrick Pouyanné précise, Thierry, que Paris finalement restera sa place principale de cotation, même s'il y aura des actions Total Energy désormais aussi à Wall Street. Ma question est la suivante, Thierry. Si le titre à Wall Street finit par attirer de gros volumes, peut-être un jour plus gros qu'à Paris, Wall Street deviendra de fait la place principale de cotation Total Energy. Et donc, une place principale de cotation, est-ce que ça se décrète ou est-ce que c'est le marché qui en décide ?
Oui, bah c'est ça, hein. Ça ne se décrète pas vraiment. Je pense que la réponse est un peu dans la question et c'est plutôt le marché qui déciderait. Alors en effet, aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale de Total. C'est toujours sous haute tension avec les sujets d'ESG, des hydrocarbures. Et puis là, il va s'ajouter ce sujet de cross-listing, hein, d'être listé des deux côtés de l'Atlantique. Et Patrick Pouyanné a répété que c'était pas l'idée de quitter la France. Le siège social, il restera bien en France. Mais c'est d'avoir des actions aussi cotées sur le NYSE. Alors, le choix, c'est les investisseurs qui le font. Comment est-ce qu'ils vont faire? L'idée, c'est déjà qu'il va y avoir des plages horaires un peu plus grandes pour traiter ces actions. Parce qu'aujourd'hui, ils cotent à New York des ADR quand même. Mais c'est pas tout à fait les mêmes titres juridiquement. Donc, c'est vrai que les actions classiques, ça sera préféré par des grands investisseurs comme les gros fonds, les BlackRock, les Fidelity, qui sont actionnaires de Total. Hein, parce que il faut le rappeler, c'est un des arguments de Patrick Pouyanné, hein, c'est que la moitié de ses actionnaires sont américains, et puis qu'aujourd'hui, Total, c'est un groupe international qui est en concurrence frontale avec beaucoup, beaucoup d'Américains. Et puis Shell aussi, hein, qui est le concurrent européen, qui réfléchit également à une double cotation. Donc dans cette mouvance-là, il est bien obligé de regarder le dossier. Ça fait beaucoup parler, comme toujours, autour de Total, mais... Oui. Qu'est-ce que vont regarder les opérateurs? Peut-être les frais. Où est-ce que c'est moins cher de les acheter? Sur Euronext à Paris ou sur le NYSE à New York? Parce que on est quand même des financiers, hein, donc ça, les frais de négociation, ça va être beaucoup regardé. Les plages horaires qui vont être un peu rallongées. Alors ça, c'est un petit peu ça va être un peu plus compliqué pour nous, gérants, analystes, parce qu'il va falloir attendre maintenant pas 18 heures pour avoir les résultats semestriels ou annuels de Total, mais la clôture de New York après 22 heures. En revanche, on sait que les sociétés de pétrolières américaines sont bien mieux valorisées aux États-Unis qu'en France. Si jamais ça pouvait tirer à la hausse les valorisations du groupe Total, je crois que finalement, tout le monde pourra en profiter.
Est-ce que Total Energy verra sa place principale de cotation en fait évoluer selon les volumes? Si des titres, des actions Total Energy arrivent effectivement à Wall Street, et ça a été confirmé par Patrick Pouyanné, est-ce que les volumes là-bas seront forcément beaucoup plus importants sur Total Energy que sur le titre à Paris? Cette question, elle reste ouverte. On posait la question aussi à Wilfried Galland tout à l'heure pour Montpensier. Il nous disait que ça dépendra par exemple de la capacité du titre Total Energy à Wall Street à intégrer les ETF américains, voire les MSCI US. Et ça dépend aussi de critères juridique, pas juste de la présence d'une action, mais de critères juridiques qui vont au-delà de la présence d'une action sur le marché américain. Parce que c'est vrai, Thierry, ce qui fait le volume sur une valeur aujourd'hui, plus encore que l'investissement titre par titre des particuliers ou des gérants, ce sont les ETF, c'est la gestion passive. Et c'est là-dessus aussi que le match se jouera. C'est par la gestion passive que la place de cotation principale de Total Energy finira par, sans doute, se définir.
Exactement, ça va se dessiner selon tous ces critères-là, et il est bien trop tôt pour dire quel marché sera le plus liquide et sur lequel se traitera les plus gros volumes. Mais voilà, après, je pense qu'en tant qu'Européen, on aura intérêt à traiter sur Euronext en euros, les Américains auront intérêt à traiter en dollars sur le NYSE, et puis tout le monde y trouvera son compte.
Une valeur qui se distingue à la hausse aujourd'hui sur la séance du jour, le groupe a publié ses résultats hier, et alors ils sont brillants les résultats. On quitte vraiment Total Energy, on quitte les blue chips, les grandes valeurs de la cote, et on entre dans l'univers des mid-caps. C'est un magnifique univers où on voit énormément de pépites, et celle qui brille aujourd'hui, la pépite du jour, c'est Compagnie des Alpes. Le titre gagne 6%. Est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'il faut accompagner cette hausse de Compagnie des Alpes? C'est une question que nous a posée aussi Seb sur le réseau X, le fil X de BFM Bourse. Thierry.
Oui, alors c'est vrai que déjà, il y a le segment des small et mid-cap qui commence à reprendre un peu du poil de la bête, si on peut s'autoriser l'expression. Et c'est vrai que la Compagnie des Alpes, bah oui, c'est tout à fait mérité, c'est plus 6% aujourd'hui parce que ils ont publié leur résultat d'exploitation au premier semestre et c'est un peu au-dessus de ce qu'on attendait, de ce qu'attendaient les analystes, de ce qu'eux-mêmes avaient prévu. Et tout ça grâce à la très très bonne performance des domaines skiables qui s'élève à 254 millions d'EBITDA en hausse de 22% avec des marges autour de plus de 50%. Donc c'est vraiment voilà une très très belle publication et ça voilà ça montre que la stratégie hein, d'opérer des domaines de haute altitude c'est la bonne, elle finit par payer. On a vu que cette année l'enneigement était très très bon en haute altitude et très mauvais plutôt pour les stations de basse et de moyenne montagne. Donc c'est la stratégie de la Compagnie des Alpes d'opérer plutôt les domaines qui sont hauts, elle paye et ça se reflète dans les chiffres et ça se reflète dans le cours de bourse. Et oui, c'est mérité de cette hausse parce que si on regarde bien historiquement, les ratios de PER ont été autour de 10-12 fois. Les profits, on est toujours autour que de 7 ou 8 fois. Donc la décote est encore importante par rapport aux années pré-Covid. Hein, si on se souvient, pré-Covid, Compagnie des Alpes cotait 20 ou 21 euros. On est aujourd'hui rendu à 15 ou 16 euros seulement. Donc il y a encore un peu de place.
Oui, on voit ce titre d'ailleurs. Ceux qui nous suivent à la radio, vous pouvez regarder aussi BFM Bourse, BFM Business à la télévision et on voit dans le mur d'image BFM Bourse ce titre en hausse sur 6 mois de 10%, sur un mois de 20%. En un mois, le titre Compagnie des Alpes a pris 20% et on gagne encore 6,5% donc aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Gauthier de nous avoir accompagné depuis les bureaux de GSD Gestion. On reste dans cet univers des 1000 caps et tiens avec à nouveau des spéculations négatives sur Vusion Group.
Vusion Group. L'ex SES Imagotag qui perdait plus de 15% ce matin et en effet désormais c'est une baisse de 10% à 142 euros. Baisse après la publication d'un tweet de Mathieu Earle à la tête du fonds spéculatif Shadowfail. Et donc c'est un fonds spéculatif qui est connu hein, sur la cote. Il avait notamment mis il y a quelques années en exergue les problèmes de Wirecard. Et alors là c'est une façon très particulière hein, puisque ça se passe sur Twitter et donc via son compte Twitter et ben Mathieu Earle laisse sous-entendre parce qu'il ne cite pas dans son tweet Vusion Group qu'il y a des problèmes comptables à nouveau sur Vusion Group, donc l'ex SES Imagotag qui fabrique des étiquettes numériques que vous retrouvez dans vos magasins. Alors la société a réagi par rapport à cela, elle parle de spéculation de marché, elle dit qu'elle n'a rien à se reprocher par rapport à cette situation, qu'elle a déjà éclairci la situation à de nombreuses reprises depuis la scandale l'année dernière qui, souvenez-vous, avait fait baisser le titre de plus de 50% en l'espace d'une séance. N'empêche que dans le doute, le titre baisse aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup d'aspect spéculatif via des produits dérivés sur cette valeur, moins 10,6% à l'instant pour Vusion Group. Avec la baisse du jour, vous avez un titre qui malgré tout est en hausse de 6% depuis le 1er janvier.
Étienne Braque depuis la Tour Euronext et Diane Bruno qui se joint à nous à son tour. Valeur ajoutée, une idée de valeur en plus. Diane, bonjour.
Bonjour.
Depuis le bureau d'Eleva Capital, on est ravis de vous retrouver. Diane, une idée de valeur en plus, donc en tout cas valeur dans laquelle, pour laquelle vous forgez une opinion favorable. C'est un titre dont on ne parle pas beaucoup ici, peut-être à tort, et vous allez nous l'expliquer. Le titre... Intercos, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, Diane ?
Exactement. Alors, vous n'en parlez pas beaucoup parce que finalement, c'est une société qui a fait son entrée sur les marchés boursiers relativement récemment, puisque c'est fin 2021. C'est une société italienne, familiale, avec une capitalisation boursière de 1,4 milliard.
C'est quoi l'intérêt d'en détenir maintenant ?
Alors, Intercos, déjà, c'est une société qui est active dans un marché intéressant puisque c'est un sous-traitant qui fabrique des produits cosmétiques pour des grands groupes comme Estée Lauder, mais aussi pour des marques qui sont actuellement montantes chez les jeunes comme Charlotte Tilbury. Et ils ont un véritable savoir-faire d'innovation dans tout ce qui est maquillage, ce qui leur permet du coup de gagner des contrats d'outsourcing et du coup de générer de la croissance. Et alors, pourquoi aujourd'hui on s'y intéresse? La performance du titre a été plutôt atone depuis un an, parce que le groupe a subi fin 2023 un déstockage de la part de ses grands clients avec une normalisation, on va dire, post-Covid, post-problème dans toute la chaîne d'approvisionnement mondial. Et il y a plein de secteurs qui ont été impactés. Et donc, eux, tous les clients Prestige ont beaucoup déstocké. Ils ont aussi eu malheureusement une cyberattaque début 2024 qui les a aussi impactés. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Et du coup, la société va retrouver une trajectoire de croissance très intéressante à partir du second semestre. Et en plus de ça, bah, tout ça va être générateur de marge opérationnelle, enfin de profitabilité, puisque les clients prestige sont mieux pour sont meilleurs pour le mix. Et du coup, le groupe va aussi retrouver des couleurs en termes de croissance opérationnelle.
La valorisation, comment vous la jugez ?
Alors, la valorisation, le groupe se paye en termes de PER 18 fois 2025 pour une croissance des profits qui va être de plus de 15% sur les deux prochaines années. Et c'est quand même 40% moins cher que, par exemple, L'Oréal, qui est l'un de ses clients. Donc, on trouve que c'est attractif.
Intercos, Diane Bruno, depuis les bureaux d'Eleva Capital. Merci beaucoup, Diane, de nous avoir accompagnés. Valeur ajoutée, le replay sera à venir dans un instant, dans quelques minutes. On est assez rapide pour la publication des replays, juste après le direct de chaque séquence, donc sur notre application BFM Business, vous allez dans BFM Bourse, puis dans la rubrique valeur ajoutée. On va parler des chiffres macroéconomiques du jour, parce que cette semaine, la macroéconomie a repris le pouvoir et on en a une nouvelle illustration cet après-midi.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Les indicateurs américains d'activité tous meilleurs qu'attendus, ce qui laisse planer le doute sur le ralentissement de l'inflation et les baisses de taux. Nouveau signe aujourd'hui, les commandes de biens durables qui sont supérieures aux attentes. Hier, c'était les PMI, puis on vient d'avoir l'indice du Michigan. Tiens, on va avoir l'analyse là toute fraîche sur l'indice du Michigan qui vient d'être publié de Michel Ruimi. Bonjour Michel, depuis vos bureaux.
Bonjour Guillaume.
Levy Capital Partners. Il nous donne quoi aujourd'hui cet indice du Michigan? Quels enseignements en tirez-vous?
Mais en fait, le chiffre révisé qui se situe à peu près à 69, alors que il y a 15 jours, il s'était situé à 64, est légèrement supérieur au consensus. Mais en fait, il confirme les données préliminaires, c'est-à-dire que ce qui a été surprenant au début du mois, pratiquement, c'était l'ampleur de la baisse. Elle était de 13% par rapport à la situation antérieure. Maintenant, elle est à 10%. Mais en fait, c'est que le moral des ménages s'est fortement dégradé ces derniers temps. Et il est retombé à travers cet indicateur au niveau qu'il avait atteint il y a 6 mois. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les consommateurs avaient ces derniers mois un peu réservé leur jugement parce qu'ils attendaient de meilleures situations. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment inquiets sur toute une série d'indicateurs. Et d'ailleurs, ces indicateurs, ces inquiétudes se reflètent sur les résultats trimestriels des grandes chaînes de magasins. Par exemple, Macy's et Love ont annoncé une baisse plus importante de leur chiffre d'affaires au premier trimestre. Et donc, le niveau de confiance se détériore en raison de trois grands indicateurs qui sont toujours les mêmes. C'est une première des choses, une inflation qui pourrait persister. Faut pas oublier que l'inflation était à 3,4 au mois d'avril, sur un an, alors que la Federal Reserve souhaite la ramener à 2%. Le niveau des taux d'intérêt qui pourrait ne pas baisser dans les prochains mois dans ce contexte. Et puis le marché de l'emploi qui a ralenti en avril malgré avec des embauches en baisse. Et donc je dirais ça peut, tout cela amène un contexte qui fait que le moral n'est pas forcément au beau fixe. Oui. Un seul espoir, c'est que l'amélioration du contexte économique dans un américain, dans un contexte de tension avec la Chine.
Effectivement, et donc moral des consommateurs assez moyen aux États-Unis, c'est peut-être la seule stat un peu mitigée de ces derniers jours, parce que sinon par ailleurs, tous les indicateurs ressortent vraiment supérieurs aux attentes, si bien que le marché n'attend plus que 35 points de baisse de taux de la Fed cette année, à peine un peu plus d'une baisse de taux. Merci beaucoup Michel de nous avoir accompagné. Michel Ruimi depuis les bureaux de Levy Capital Partners. Alors aujourd'hui quand même, après les tensions d'hier sur le marché obligataire, aujourd'hui quand même, le 10 ans américain se détend un tout petit peu, on est à 4,40 en ce moment sur le 10 ans US.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
4,47 même, donc c'est vraiment une très très légère détente. Les produits structurés se vendent comme des petits pains en ce moment. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Caroline Delangue nous rejoint, responsable cross à cette solution pour Fédéral Finance Gestion. Bonjour Caroline.
Bonjour.
C'est quoi un produit structuré ?
Alors, un produit structuré, c'est un instrument financier qui va offrir une alternative en termes de diversification pour un investisseur. Donc, ça permet de profiter du potentiel d'un actif sous-jacent tout en allant calibrant le risque. Donc, la performance, elle est promise, elle est délivrée via une formule, si bien que l'investisseur, finalement, connaît à l'avance sa performance à venir en fonction, bien évidemment, de l'évolution de l'actif sous-jacent. Alors, l'actif sous-jacent, ça peut être beaucoup de choses. Un indice action, une action, un panier d'actions, même un sous-jacent, un taux d'intérêt. Voilà, donc un large panel.
Vous confirmez que la collecte est importante en ce moment sur ces produits, les produits structurés?
Exactement. Donc, c'est une collecte qui a vraiment une très bonne dynamique. Et ça, on le constate bon, déjà depuis plusieurs années, mais encore plus en 2023. On va dire que 2023, ça a vraiment été l'année des produits structurés. Alors, la principale raison, on la connaît tous, hein, c'est la forte hausse des taux d'intérêt, bien évidemment, qui a un impact positif, effectivement, sur le rendement des produits structurés. En peut-être un chiffre représentatif, en 2023, sur le marché de l'offre au public en France, c'est un marché qui pèse 38 milliards d'euros, donc qui est en hausse de 17%. Par rapport à son niveau de 2022. Et là, on démarre l'année est bien entamée, on est déjà à 11 milliards d'euros de collecte sur 2024.
Mais les meilleures périodes pour investir, donc, c'est quand les taux montent. Là, on va plutôt vers des baisses de taux. Enfin, on finit par se poser la question, mais enfin, a priori, donc ce serait peut-être moins porteur pour les produits structurés si les taux venaient à baisser.
C'est vrai que, de façon naturelle, on peut voir les choses comme ça, mais ce qui est très intéressant sur un produit structuré, finalement, c'est ça. Ce qu'on appelle sa résilience. Parce que, effectivement, en période de hausse des taux, ça va venir doper les rendements. Mais en fait, il y a d'autres paramètres aussi qui vont impacter un produit structuré. C'est notamment, par exemple, la volatilité. Donc, la volatilité des marchés, sur les marchés actions, par exemple. C'est un paramètre qui a fait que, même en période de taux négatifs, comme on a connu ces dernières années, on a des produits structurés qui ont vraiment délivré de très beaux coupons. Je pense notamment au fameux produit autocall sur indice actions, qui a délivré et qui continue à délivrer de très beaux rendements pour les investisseurs.
Dessine-moi un produit structuré. Beaucoup de collectes depuis l'an dernier sur les produits structurés. Est-ce que néanmoins, le bémol principal, aucun produit n'est parfait. Est-ce que le bémol principal, c'est quand même les frais? Les frais sur les produits structurés, bon voilà, c'est pas... tant mieux pour ceux qui en profitent.
Ce sont des produits qui sont margés. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce sont des produits qui vont aller rémunérer tout un écosystème. Le client, en premier lieu, bien évidemment, le distributeur, l'assureur, si on est dans le cadre de l'assurance vie. Et on a une partie prenante supplémentaire, ça va être la banque d'investissement, la banque qui émet le produit structuré, face à qui on va traiter le produit. Donc finalement, un bon produit structuré, ça va être celui qui va réussir finalement à combiner tout ça et puis à répartir de façon équitable la marge entre toutes ces parties prenantes. Alors oui, c'est margé. Après, on a des différences. Un produit à capital garanti sera moins margé qu'un produit à capital protégé. Puis on a quand même une réglementation qui encadre tout ça aujourd'hui. La réglementation PRIIPS qui est là pour justement imposer une transparence vis-à-vis des coûts et frais. Puis on constate quand même une course à la réduction des marges vis-à-vis des banques d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus d'intermédiaires aujourd'hui indépendants, comme nous, asset managers, brokers, qui vont vraiment mettre en compétition ces banques en réalisant des appels d'offres massifs dans le marché.
Les fonds de performance absolue, c'est pas encore un peu mieux que les produits structurés ?
Alors, c'est une question pas évidente à répondre. Pour moi, ce sont des produits qui répondent à des besoins qui sont quand même un petit peu différents. Le fonds de performance absolue, ça va chercher vraiment à délivrer une performance quelle que soit la configuration de marché. J'ai envie de dire, on parle souvent de stratégie « all weather ». Sans garantie de capital, pour autant, ni de garantie contractuelle de performance. À l'inverse, un produit structuré, lui, va répondre, j'allais dire, plutôt à un besoin. On est presque dans du sur-mesure. Il répond à un besoin d'un investisseur en termes de performance, de coupons, avec cet affichage contractuel. Donc, on est sur des choses un peu différentes.
Caroline Delangle pour Fédéral Finance Gestion. Merci beaucoup d'être passée nous voir. La pédagogie, toujours de la pédagogie dans BFM Bourse, est aujourd'hui consacrée aux produits structurés. Nos intervenants nous apprennent toujours beaucoup de choses. À nous tous, et je vais vous faire une confidence, à moi en premier. Qu'est-ce qu'on en apprend auprès d'eux, grâce à eux? Et pour moi, il y a une grande leçon. Ah oui, c'est un peu comme à l'école, finalement. C'est très personnel, mais j'apprends et je m'instruis beaucoup auprès de tous nos intervenants de BFM Bourse tout au long de la semaine. Et pour moi, leur leçon de la semaine, c'est qu'on a perdu pied avec la volatilité sur les marchés. On a peut-être perdu nos instruments de mesure habituels et donc on ne connaît pas le véritable état de stress désormais des marchés. C'est Sébastien Corchat qui nous l'a expliqué de façon très pédagogique en l'occurrence. Sébastien Corchat pour Cogefi Gestion. C'était dans la Data Room mardi dernier. Il m'a appris que le VIX, pour mesurer la volatilité, ça ne fonctionne absolument plus. Faut limite plus le regarder. Pourquoi ? Parce que le VIX mesure la volatilité à travers les options à un mois. Or, ce ne sont plus ces options que le marché aujourd'hui utilise, mais les options à une journée. C'est elle qui l'utilise à 50% désormais. Donc l'utilisation du VIX n'est plus le bon baromètre. Le VIX n'est plus le meilleur instrument de mesure de la volatilité des marchés. Il faudrait plutôt regarder la volatilité à 24 heures, puisque ce sont les options à 24 heures que le marché utilise. Sauf qu'à 24 heures, ça ne veut rien dire en fait. Voilà la leçon donc que m'aura appris cette semaine en bourse et l'un de nos intervenants, Sébastien Corchia. Vous pouvez retrouver le replay de son intervention d'ailleurs sur notre application BFM Business. C'était mardi dans la Data Room.
Très bien, élève Sommerer. Vous avez bien résumé la leçon de la semaine sur les marchés. Un journaliste qui écoute de si près les marchés, c'est notable. On voit qu'on est dans BFM Bourse. Mais il vous reste beaucoup à découvrir. À vendredi prochain pour la prochaine leçon.
Avec plaisir. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Ben, c'est pas dans BFM Bourse qu'on finit d'apprendre. On en apprend tous les jours grâce à l'ensemble de nos experts. Et chaque vendredi désormais, la leçon de la semaine. Dans un instant, la famille se réunit. On se retrouve dans une minute. Vous pouvez aussi consulter nos articles. Tiens, cet article consacré au changement de recommandation du jour sur le marché sur notre site BFM Bourse. L'article est en ligne et c'est vrai que les changements de recompte ont un gros impact sur un certain nombre de valeurs. N'hésitez pas donc à consulter notre site bfmbourse.com. On se retrouve donc dans une minute. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille qui se réunit chaque jour jusqu'à 17h, les équipes radio-télé de BFM Bourse et BFM Business, et nos équipes web aussi. Sabrina Zadgui est avec nous. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Très très bien. Vous aimez le tennis, Sabrina ?
Oui.
Ouh, j'ai senti que... C'est... Non, vous n'aimez pas... Là, c'est un oui qui résonne, qui sonne faux. Vous n'aimez pas le tennis.
Vous m'avez percé à jour, Guillaume.
Elle n'en a rien à faire du tennis. Mais vous devrez quand même, et j'espère
Pourquoi
que vous y prendrez
Dites
plaisir. Quoi. Vous devrez quand même, et j'espère que vous y prendrez plaisir.
Mm-hmm.
Écoutez, les Sœurs Williams sur BFM Business, c'est en direct à partir de 17h tout à l'heure, une émission spéciale depuis Vivatech. BFM Business est partenaire du Salon Vivatech. Les Sœurs Williams, les stars, les icônes du tennis mondial vont s'exprimer sur l'importance, la valeur ajoutée des solutions d'intelligence artificielle pour le sport de haut niveau. Ça va être sans doute très intéressant. Là, on a deux icônes, effectivement, qui vont nous parler d'IA. Il se trouve que plus d'un tiers des financements de la tech dans le sport, plus d'un tiers viennent justement des anciens sportifs, parmi lesquels, désormais, les Sœurs Williams, donc à suivre, à écouter, à regarder en direct tout à l'heure à partir de 17h. BFM Bourse, exceptionnellement, s'arrêtera un peu plus tôt.
Mais c'est pour la bonne cause.
C'est pour la bonne cause et c'est le privilège d'être partenaire d'un grand événement comme Vivatech. Voilà, nos auditeurs et téléspectateurs peuvent, en quasi-exclusivité, donc donner rendez-vous aux Sœurs Williams à partir de 17h tout à l'heure sur l'avenir de l'IA dans le sport et l'avenir du sport par l'intelligence artificielle également. Auparavant, alors on espérait un CAC 40 qui monte au filet aujourd'hui.
Bah,
c'est
oh,
pas le cas.
Ah,
il joue en fond de cours le CAC.
Eh oui, il joue en fond de cours.
Je l'avais préparé. On perd 0,1% là sur le CAC 40.
0,1%, oui, bon, on parlait de balles jaunes. Bah, là, on part d'un CAC rouge hein, sous les 8100 points. Hein. En proie au doute hein, sur les futures intentions de la Fed quant à sa politique monétaire. Hein. Les dernières statistiques, les minutes déjà. Et les dernières statistiques publiées outre-Atlantique, bah, ça laisse planer le doute hein, sur voilà, les intentions de la Fed sur une première baisse de taux. Surtout que les indicateurs d'activité étaient plutôt de très bonne facture.
Ah oui.
Hein, et le CAC là se dirige vers une deuxième semaine de baisse consécutive.
Hein,
perd plus d'1% déjà sur la semaine.
Et aujourd'hui, nouveaux indicateurs américains qui vont dans le même sens que ceux d'hier, à savoir une économie. Alors c'est bien, hein, une économie qui cartonne, enfin qui se porte bien. On va y arriver, pardon pour les bafouilles, qui se porte bien. C'est quoi les commandes de biens durables aujourd'hui? Elles étaient attendues en baisse, elles ressortent en hausse. Nouveau signe de résilience. Et du coup, on se dit l'inflation va tenir, va se prolonger, va coller, comme on dit. Et donc les baisses de taux de la Fed seront sans doute un peu moindres que ce qu'on espérait jusqu'ici. Voilà, c'est ça le problème des marchés en ce moment. Et donc c'est pour cela que la macro cette semaine a un petit peu glacé l'ambiance malgré des résultats encore positifs.
Époustouflant d'NVIDIA.
Effectivement. Gilles Santacreux avec nous depuis boursicoté.com. Bonjour Gilles. On est ravis de vous retrouver. Alors, c'est Étienne qui insiste beaucoup dessus et il a vraiment raison. Depuis la tour Euronext, il faut quand même relativiser tout ça. Les volumes sur les marchés sont anémiques. Vraiment anémiques. On est encore là sous le milliard ou à peine au milliard d'euros sur le CAC 40 alors qu'on approche de la clôture, Gilles.
Oui, toute cette semaine, il n'y a pas eu énormément de volume et je dirais que c'est plutôt rassurant parce qu'on a un mouvement qui est baissier mais qui n'est pas nourri par une conviction justement alimentée par ces volumes. Et je dirais que c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'on n'a pas de grosses attaques baissières et que les cours pourraient remonter. Alors tout à l'heure, je vous entendais parler des Sœurs Williams. Moi, je vais vous poser une question. Le point commun qu'il y a en ce moment entre le CAC 40 et le tennis, justement, c'est les trous dans la raquette, eh ben, on en a aussi dans le marché. Magnifique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de gap, puisqu'en fait, en analyse technique, les trous de cotation, ce sont des gaps. Et ce matin, on a eu un gap baissier qui aurait pu nous donner une alerte assez importante en termes de signal technique, qui a été comblé. On reste sous une zone technique à 8092 points qu'il fallait surveiller. C'était l'objectif suite à une rupture des 8145 points. Et on a comblé un autre trou, celui du gap haussier du 8 mai, puisqu'on est venu donc ouvrir au-delà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une phase, dans une période où les dividendes ont un gros impact sur l'évolution du CAC 40. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe au niveau du CAC 40 GR, le Global Return, eh bien en fait, on s'aperçoit que ce gap qui s'était ouvert le 8 mai, on ne l'a pas comblé en fait. Ce qui veut dire que en fait, ce comblement, il est lié justement au mode de calcul de l'indice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on réintègre les dividendes, on reste dans une dynamique qui est haussière, puisque on est au-dessus de niveaux qui ont confirmé justement cette tendance. Et pour l'instant, même si on a l'impression d'être dans une phase de consolidation, même si graphiquement on est dans une configuration qui nous indique que ça semble fragile. Un, si on prend les volumes. Deux, si on prend les dividendes versés. Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on est dans une structure qui reste solide et qui nous permet d'espérer encore à une reprise en mouvement haussier. Au niveau de mes algorithmes, on avait détecté justement cette phase de consolidation cette semaine. La probabilité serait d'une reprise en mouvement haussier en milieu de semaine prochaine.
Alors, du côté des valeurs, du côté de celles, des actifs en tout cas, si on élargit, qui se distinguent le plus en termes de potentiel technique, ce qu'il faut surveiller, ce qu'il faut avoir dans le scope et les radars, c'est Téléperformance. Vous avez choisi de nous en parler cet après-midi. Pourquoi Téléperformance, Gilles?
Eh bien, c'est encore une histoire de gap. On est venu combler un trou de cotation s'était ouvert le 7 mars. C'était une zone de résistance qu'il fallait viser à 110 euros. Et depuis, on consolide. Mais on consolide sur des niveaux qui n'invalident pas la poursuite, justement, de ce mouvement. Donc, le fait d'avoir comblé ce gros gap, qui était justement encadré par deux niveaux techniques importants, avec une faible consolidation derrière, si les cours repartent à la hausse, et là, on a un niveau d'invalidation qui n'est pas très loin, qui est à 98 euros. Si on repasse cette zone des 110, eh bien, on pourra avoir un mouvement haussier qui serait assez important et qui pourrait gagner en dynamique, alimenté éventuellement par des rachats de shorts.
Gilles Santacreux, boursicoté.com, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, Gilles. Et donc, ce regard technique sur les valeurs Téléperformance que vous avez repéré, détecté, le CAC 40 dans de faibles volumes, ça vous rassure parce que c'est vrai que le CAC est baissier sur la semaine, mais comme les volumes sont faibles, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de conviction non plus dans cette baisse. Mais enfin, il perd encore un petit peu de terrain aujourd'hui, le CAC, moins 0,2%, alors que Wall Street, c'est la hausse. Nvidia aussi. Ah, vous nous demandez des nouvelles d'Nvidia d'ailleurs. Hein. On voit des questions là qui passent sur nos réseaux sociaux. Et Nvidia, pourquoi n'en parlez-vous pas? D'abord parce qu'on en a beaucoup parlé hier de la publication, beaucoup de replays, du coup, disponibles sur notre application BFM Business pour tout réécouter sur Nvidia, sur les semi-conducteurs aussi, quelle valeur IA privilégiée en bourse. Mais Nvidia aujourd'hui, juste pour en dire un mot supplémentaire, gagne encore un peu de terrain après l'incroyable hausse d'hier, toujours pas de prise de bénéfice. Alors non, vraiment une hausse en ligne droite et ça continue. Nvidia aujourd'hui gagne encore 0,1%. Mine de rien, ça paraît pas grand-chose 0,1%, mais après l'incroyable hausse d'hier, c'est presque un exploit de gagner encore du terrain après une telle hausse. C'est assez ahurissant quand même cette hype autour de Nvidia. Et puis il y a une autre valeur dont il faut qu'on vous parle et vous nous y encouragez aussi. C'est un fidèle auditeur, Jean-François Dancy, qui nous suit, qui nous dit vous parlez pas beaucoup de Vision Group. Et il a raison. Alors on en a un petit peu parlé avec Étienne Braque aux alentours de 16h tout à l'heure. Le replay là aussi est disponible, mais il faut qu'on en parle peut-être un peu plus parce qu'il y a de nouvelles spéculations qui entraînent à la baisse Vision Group. Le titre en ce moment, Vision Group, donc c'est l'ex Solution 30, hein, c'est ça? SES Imagotag. Non, parce qu'il y avait aussi d'énormes spéculations, etc. sur Solution 30. Donc, finit par. Ouais, exactement. C'est l'ex SES Imagotag qui aujourd'hui fait l'objet de nouvelles attaques, figurez-vous, mesdames, messieurs. Et donc Vision Group perd à 5% là, à l'instant, la bourse de Paris.
On était à moins 11 avant que je descende en plateau, hein, parce que voilà, il y a d'autres accusations sur des irrégularités comptables de la part d'un autre fonds. Et ça, c'était un an après donc la première salve, hein, c'était Gotham City qui avait réduit à néant la capitalisation de s'appelait SES Imagotag à l'époque, hein. Oui. Et le titre avait perdu 60% sur ces mêmes accusations qui ont été entre-temps défendues. SOS Imago Tech est monté au créneau.
Ils avaient très très bien remonté la pente d'ailleurs. En termes de communication crise et de riposte, c'était assez exemplaire, ouais, effectivement.
Et là, on était revenu sur des plus hauts historiques, là, à plus de 175 euros il y a encore quelques jours. Et donc là, c'est une nouvelle attaque. Donc SOS Imago Tech, enfin Vision Group nous a communiqué des éléments de langage nous expliquant tous les détails. Et vous avez aussi un article qui est consacré donc à cette nouvel épisode qui est publié et disponible sur BFM Bourse.
Effectivement, vous avez bien fait Jean-François, il nous écrit d'Annecy, il nous suit très très régulièrement et on vous suit, vous tous bien sûr, quand vous nous écrivez, n'hésitez pas, on rebondit aussi en direct à l'antenne, il y a vraiment de l'interactivité. Vous avez bien fait Jean-François de nous alerter sur Vision Group, l'article lui est déjà en ligne, donc n'hésitez pas, pour en savoir plus, il nous demande vraiment des détails, n'hésitez pas à aller consulter.
Il y a tous les détails de cette...
C'est vous qui l'avez écrit, Sabrina? Ah oui, en plus. Vous remontez vraiment à la source, Jean-François, donc n'hésitez pas, bien sûr. Dans un instant, on parlera d'une autre valeur qui se distingue, mais d'abord, la question du jour. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez vous y abonner. C'est d'ailleurs là aussi, sur notre fil XBFM Bourse, que Jean-François nous a écrit. Et vous pouvez aussi vous abonner pour répondre à cette question qu'on vous pose chaque jour. Aujourd'hui, la question du jour, elle est consacrée à la macroéconomie qui pèse un peu sur les indices cette semaine parce qu'on a de super indicateurs américains. Donc l'inflation qui pourrait résister. Et la question qu'on vous pose, c'est de savoir si, à vos yeux, la Fed baissera ses taux cette année. Une fois, première hypothèse. Mm-hmm. Deux fois, deuxième hypothèse. Ou pas du tout, pas de baisse de taux. Pour vous, Sabrina, vu les indicateurs qu'on a cette semaine, on ira plutôt vers une baisse de taux, deux baisses de taux ou zéro?
Allez, une pour la forme quand même, hein, une baisse de taux. Bon, on le voit avec les différents indicateurs que l'économie américaine résiste, hein, est plutôt résiliente. Hein, les indicateurs d'activité sont toujours en forte hausse. Ce qui ne pousse absolument pas la Fed à vouloir dégainer en premier. Là, ce sera plutôt la BCE, hein, vu ce qui se profile. Donc, et on part quand même... on part sur une hypothèse d'une fois, voire deux fois, mais plutôt une fois. Et on partait quand même d'une hypothèse de six baisses de taux depuis en début d'année. Et là, on est à réduire à une fois, voire zéro fois, hein, comme nous l'indiquent nos internautes.
Mais oui, parce que Sabrina voit la réponse, exactement. Vos réponses, vous voyez les réponses de nos auditeurs et téléspectateurs.
Un peu là.
Effectivement, ce qui viennent, ces réponses, de s'afficher dans le mur d'image de BFM Business. Si vous nous suivez à la radio, vous vous dites peut-être, moi je ne vois pas les réponses. Mais oui, parce qu'à la télé, vous les verriez. On les voit là dans le mur d'image de BFM Bourse. Effectivement, vos réponses à cette question. Combien de baisses de taux à venir de la Fed cette année, d'ici la fin de l'année, compte tenu des bons indicateurs américains qu'on a eu cette semaine? Vous êtes une majorité à estimer qu'il y aura zéro baisse de taux. Vous êtes une majorité à 50% à estimer que la Fed, finalement, ne baissera pas ses taux cette année. Le marché, le consensus, il voit une baisse de taux. Et vous êtes 42% à avoir voté pour une baisse de taux. Et seulement 8% d'entre vous, seulement 8% pensent qu'il y aura encore deux baisses de taux. Bon, le match reste ouvert. N'hésitez pas, vous tous, à continuer de voter. Et surtout, vous ne le faites pas assez. Je vous le dis, je ne vous gronde pas, mais je vous le dis quand même. Vous ne le faites pas assez. Laissez-nous vos arguments aussi en commentaire. Ce qui est intéressant et important, c'est aussi l'argumentation. Laissez-les-nous en commentaire. Et vous le voyez, on est interactif. On rebondira dessus dans la suite de l'émission.
Ça nourrit la réflexion aussi.
Effectivement, ça nourrit notre réflexion aussi. Tout dépend de vous. Vous qui nous suivez, donc non seulement votez, mais laissez-nous aussi des arguments en commentaire. On le disait, il y a une autre valeur qui se distingue. Alors Vision Group, aujourd'hui, c'est très compliqué avec cette attaque. Le titre perd 11%, vous avez raison, moins 11% en Vision Group en ce moment. Puis à l'inverse, parmi les plus fortes hausses, en plus, c'est bien, on est vendredi, on parle un petit peu de sport, de ski, c'est plus la saison. Oui. Bon, l'été qui arrive. Compagnie des Alpes. Publication, perspective, saluée par le marché. Le titre Compagnie des Alpes gagne 7% là à l'instant. Ça
je trouvais que parler de Compagnie des Alpes avant le week-end, c'était plutôt bien indiqué. Bon, le nom de cette entreprise, comme ça, de prime abord, ça ne parle pas à grand monde. Mais si j'énonce Parc Astérix, Musée Grévin ou les domaines skiables de Serre Chevalier ou de la Plagne, là je pense que j'éclaire la lanterne de pas mal de personnes. Eh bien, sur la période d'octobre à mars, hein, ce qui correspond au premier semestre pour Compagnie des Alpes, le groupe a publié une hausse de 12% de son chiffre d'affaires à un niveau record de 761 millions d'euros. Alors le groupe a bénéficié d'éléments favorables. La météo a été favorable cet hiver avec un bel enneigement, ce qui a profité donc aux stations de ski exploitées par Compagnie des Alpes. Et le week-end de Pâques est aussi tombé plus tôt cette année, ce qui a permis d'ouvrir un peu plus tôt les parcs d'attractions. Cette hausse de l'activité s'est aussi accompagnée d'une progression de la rentabilité. Et le groupe a aussi indiqué avoir réduit sa facture d'électricité assez significativement.
Oui, et ça c'est important, la facture d'électricité, oui, effectivement, par des temps qui courent. Alors, autre bonne nouvelle, du coup, le groupe Compagnie des Alpes relève ses perspectives de rentabilité.
Et oui, Compagnie des Alpes vise 350 millions d'euros pour son indicateur privilégié de rentabilité. C'est une croissance de 15%, là où le groupe visait une croissance de 7%, et une croissance donc de 7%, et donc un indicateur de rentabilité de 325 millions d'euros auparavant. La société espère que les conditions météorologiques, mais aussi et aussi d'exploitation seront identiques à celles des seconds semestres des années précédentes et que la fréquentation de ces parcs sera toujours au rendez-vous malgré les Jeux olympiques et paralympiques à Paris.
Effectivement, c'est donc ce titre qui se distingue à la hausse aujourd'hui et vous y consacrez aussi un article. C'est vous qui l'avez écrit aussi, Sabrina.
Aussi.
Bah, dites donc, ça chauffe pas BFM Bourse,
non,
le site.
Non, ça chauffe pas. Voilà, je fais les hausses et les baisses.
Ouais, exactement, on est complet, toujours complet. Et donc cet article est disponible aussi, consacré à Compagnie des Alpes, sur notre site BFM Bourse. Le CAC 40 est en repli en ce moment de 0,2%. Tout à l'heure, dans Valeurs Ajoutées, Diane Bruno nous proposait une valeur sur laquelle elle est à l'achat. Diane Bruno pour Eleva Capital. Le replay est disponible, lui aussi, sur notre application. N'hésitez pas à consulter. On a sonné à la porte, je crois.
Oui, je confirme.
Regardez qui est là. Kevin, c'est Kevin Tosé de Carmignac qui est là. Bah, c'est vendredi, venez Kevin. C'est vendredi, c'est déjà un peu le week-end. N'hésitez pas à passer nous voir. La porte vous est ouverte, la porte de l'appartement. Et tous les copains sont les bienvenus. Kevin, bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Vous allez bien ?
Bonjour.
Bonjour Kevin.
C'est déjà un peu le week-end, voilà. Alors du coup, comme on est vendredi après-midi, on peut peut-être en profiter, Kevin. Et si vous voulez bien, se parler un petit peu plus librement que d'habitude.
Oui.
Oui. Se confier, c'est jouable ?
C'est possible.
Il ne le dit pas très fort, hein, pour ceux qui nous
c'est
suivent
possible.
La radio.
Ouais,
ah voilà.
Kevin, c'est le printemps. En plus, il paraît qu'il va faire beau ce week-end, en tout cas demain. Ça va changer des dernières semaines, vous me direz. C'est le printemps. Est-ce qu'en bourse aussi, tout compte fait, tout va bien ?
Alors, en bourse, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, d'un point de vue économique, je trouve que le contexte s'y prête. Hein, comme vous le disiez, le printemps, il fait beau, un bon week-end. Et si tout allait bien, c'est une éventualité qu'il faut considérer, je crois. Si on regarde la croissance américaine, par exemple, les indicateurs coïncidents nous disent que voilà, la trajectoire de croissance est de 3,5% de croissance du PIB. Là, en ce moment, aux États-Unis, on a eu des chiffres manufacturiers qui étaient bien dans l'orienté, qui montrent qu'on sort du territoire récessionniste, on repasse en territoire expansionniste. Certaines mesures, la production future, là aussi, tendent à montrer on va vers une croissance supérieure à 2%. En zone euro aussi, on nous avait prédit encore une fois l'orage. Eh bien, la croissance, l'année prochaine, elle sera deux fois plus élevée que ce qu'elle est cette année.
Oui.
Et puis, on parlait des vacances, les pays Club Med du sud de l'Europe. En Espagne, on a les chiffres de croissance du PIB aussi. 0,7 de croissance sur le premier trimestre, c'est 2,5 de croissance en rythme annualisé. Et puis la Chine, qui semble là aussi, adresser en tout cas certains de ses problèmes structurels liés à l'immobilier. Mais voilà, on voit un déport vers l'activité industrielle, les exportations et puis les prémices d'un début de résolution du problème sur le front immobilier.
Donc en vous écoutant, à vous écouter, on se dit tout va bien. Combien de temps ce beau temps peut-il encore tenir en bourse et sur la macroéconomie ?
Alors, combien de temps est-ce que ça peut durer ? C'est la question. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a, on va dire, le fameux put du banquier central, le put de Powell, qui pourra baisser les taux d'intérêt si jamais la conjoncture venait à se dégrader, si le beau temps tournait à l'orage. Je crois qu'on a aussi le put de Madame Yellen, qui se refuse à, on va dire, émettre de la duration, à émettre des obligations longues. Hein. Tout ça, c'est émis sur des marchés monétaires. Ça, je pense que ça peut prolonger, en tout cas, ce beau temps. En Europe, là aussi, les baisses de taux, elles vont arriver plus vite qu'ailleurs, en tout cas plus vite qu'ailleurs dans le monde développé. Et ça va aussi avoir une incidence, et une incidence relativement rapide sur la croissance européenne. Pourquoi ? Parce que on a une maturité des instruments de dette émis par le secteur privé, corporate, qui est plus courte qu'ailleurs, de l'ordre de 5 à 6 années. On a aussi beaucoup de taux variables dans les marchés immobiliers, et notamment les marchés immobiliers, là aussi dans le sud de l'Europe. Et donc, une baisse de taux d'intérêt, une baisse de taux de politique monétaire, ça se retrouve très vite dans la croissance économique.
C'est la famille là, qui est réunie, vous n'allez pas vous en sortir si facilement, Kevin. Sabrina vous interroge.
Et oui, et comment, on parle quand même aux investisseurs particuliers, et comment dans ce contexte, on arrive à gérer, à piloter son portefeuille dans ce contexte-là ?
Alors, avoir du risque, en tout cas un moteur de performance ou plusieurs moteurs de performance aujourd'hui, je crois que ça fait du sens. Des actions en premier lieu, hein. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour aménager la chèvre-échoue, avoir des actions d'un côté et en même temps intégrer cette embellie du point de vue économique. Elle se reflète aussi dans le prix de certains actifs. Je crois que ce qu'on qualifie d'action de qualité, qui donne de la visibilité, voilà. On est là pour se dire les choses, on ne va pas bouder son plaisir. On a des leaders mondiaux, il n'y a pas que Nvidia dans le monde. Il y a des leaders mondiaux en Europe aussi. Nvidia, ça fait sans doute du sens aussi. On voit la trajectoire de performance et des résultats qui sont battus trimestre après trimestre. Les marchés du crédit aussi, alors ils sont renchéris, mais voilà, on va dire le rendement à un moment T, c'est quand même, on va dire, un indicateur qui a plutôt fonctionné sur la trajectoire future de ces marchés-là. Et on arrive, sur les marchés du crédit, à avoir des rendements embarqués qui sont tout à fait acceptables, 5, oui. 6, 7, 8%.
Bon, c'est intéressant. Et puis, on a un équilibre des performances de marché un peu meilleur. Aujourd'hui, qui a 3-4 mois, par exemple, on voit davantage de valeurs participer à la hausse des marchés qu'en 2023. C'est plutôt sain aussi. La hausse des marchés ne dépend pas d'une ou deux valeurs seulement. D'ailleurs, on a vu hier, finalement, la faible influence, ça nous a tous surpris, d'Nvidia sur la tendance globale des indices. Nvidia s'est envolé à la hausse, mais les indices, eux, n'ont pas profité d'Nvidia parce qu'il y avait d'autres considérations. Donc, c'est quand même le signe aussi d'un rééquilibrage global du marché. C'est plutôt positif. Tout ça, c'est plutôt favorable. Mais je vais vous le dire franchement, Kevin, vous me confortez quand même dans une impression qui s'installe en moi de plus en plus. Vous voulez savoir laquelle ?
Dites-moi.
J'ai l'impression qu'il est interdit d'être pessimiste en bourse désormais. Non, mais même les stratèges américains d'habitude les plus pessimistes, même eux deviennent désormais optimistes. Alors que, franchement, enfin, tout n'est pas rose. D'accord, on est vendredi, c'est le week-end. Mais il y a quand même la géopolitique, c'est pas rose. La concentration des indices sur un certain nombre de rares valeurs, même si ça s'améliore un peu là, on a quand même encore une hyper-concentration. Les taux aussi, qui peut-être ne baisseront pas autant que le marché espère. Tout ça, c'est des réalités, mais il est interdit d'être pessimiste. Et vous-même, j'ai l'impression que vous êtes super... Enfin, je sais pas. Il y a encore une notion de risque aujourd'hui dans le marché.
Alors, la question, ou en tout cas, le message qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui, c'est que aujourd'hui tout va bien. Et comme vous le soulignez, ou comme on en parlait à l'instant, c'est un environnement qui peut durer. Après, la question à laquelle je souhaiterais répondre, Guillaume, c'est est-ce que c'est pérenne ? Alors là, sans doute qu'on commence à toucher des points un peu plus sensibles. Pourquoi est-ce que ça allait moins ? Et vous parlez des baisses de taux, on parlait de l'inflation. Parce que cette année, ou cette décennie 2020, elle a quand même été caractérisée par une remontée de l'endettement et une remontée de l'endettement public. Hein. Dans les années 90, on avait vu quand même les gains de productivité liés à Internet, à l'informatique, sauver le cycle. Dans les années 2000, là, pour le coup, on a vu les excès de l'endettement privé, hein, des particuliers, des entreprises. Les années 2010, c'était plutôt l'inverse, hein, le désendettement, hein, on se souvient de Lehman, l'orthodoxie budgétaire des pays émergents. Et 2020, il y a eu un vrai rattrapage, un rééquilibrage post-Covid, mais ça s'est fait avec des déficits toujours grandissants et des émissions de dette toujours plus importantes. Mmh. Donc si je reprends ces trois grands blocs économiques auxquels je faisais allusion tout à l'heure, aux États-Unis, il y a un vrai risque de dominance budgétaire. Hein. Il y a un vrai risque d'inflation aussi, c'est-à-dire que si la Réserve fédérale baisse ses taux d'intérêt alors que l'inflation n'est pas encore rentrée dans son tube de dentifrice, eh bien, il y a ce risque-là de voir une inflation plus rémanente, plus persistante et une remontée des taux longs. Et ça, quand on émet autant de dettes que le font les États-Unis, ça peut poser question. Hein. Alors, en Europe aussi, hein, on a nos problèmes. On n'a pas vraiment fait beaucoup de gains de productivité. Hein. Voilà, je parlais de l'Espagne tout à l'heure. La croissance potentielle en Espagne, de l'aveu même de la Banque Centrale Espagnole, elle n'est pas aussi importante que ce qu'on le pensait. Elle se disait 2% de croissance potentielle, c'est possible, avec les fonds du Next Generation EU Fund. En fait, elle a rétro-pédalé. Elle dit plutôt 1,4, 1,5.
Donc... Et c'est un vrai problème parce que l'Espagne, c'est un super élève là, depuis 2-3 ans sur l'évolution de ses déficits, mais parce qu'ils ont une croissance assez impressionnante, sauf que les choses sont amenées à se dégrader sur la croissance espagnole. Et donc, la gestion des déficits aussi risque de se compliquer pour l'Espagne.
Alors là, je reprends ce parallèle qu'on faisait aujourd'hui. L'été va sans doute aider l'Espagne parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Hein. C'est un pays qui fonctionne grâce au tourisme aussi. Mais c'est vrai que un horizon un peu plus long terme, c'est quelque chose qui pourrait se dégrader. Et puis la Chine, hein, l'éléphant dans la pièce ou le panda géant dans la pièce. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer en Chine ? Eh bien, en Chine, on l'a dit, il y a un rééquilibrage vers des exportations qui sont en forte croissance. Hein. 10% par an, 7 millions de véhicules chinois qui sont exportés tous les ans. Mais ça se fait avec une forme de subvention faite par l'État chinois. Je ne suis pas sûr que ça passe très bien auprès, on va dire, des gouvernements américains, européens, et on voit voilà, les tarifs, la menace des tarifs douaniers refaire surface.
Intéressante synthèse là, que vous nous proposez aujourd'hui, Kevin Tauzet, Carmignac Gestion, régulièrement à nos côtés. Une synthèse, effectivement, des risques et des opportunités qui s'offrent encore au marché. À retrouver votre propos, bien sûr, dans un instant aussi en replay. Il nous reste 2 minutes à passer tous ensemble en famille.
Deux minutes.
Vous aimez bien, vous aimez le tennis, Kevin, ou pas?
Ouais.
C'est un vrai c'est parce que Sabrina disait, c'est semblant de dire oui. Alors, elle ne pensait pas. Vous aimez bien.
Si vous me proposez un quiz, je pense que vous allez mettre en porte-à-faux Guillaume.
Moi, je vous pose la question parce que dans un instant, les Sœurs Williams seront sur BFM Business en direct. Ouais. Depuis Vivatech, hein, BFM Business, partenaire de Vivatech, et on pourra écouter les Sœurs Williams qui vont parler de quoi? D'intelligence artificielle dans le sport de haut niveau. Impressionnant, ouais, effectivement. Elles-mêmes, d'ailleurs, font partie des financeurs de la tech aux États-Unis dans le sport. Donc, dans un instant, les Sœurs Williams, ça sera sans doute très, très instructif. Auparavant, un dernier moment en famille, ensemble.
Entre nous.
C'est ce chiffre qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, c'est sur le cuivre. Peut-être les cours du cuivre, c'est Endurant, qui est une société trading sur les matières premières, qui voit le cuivre, pourquoi pas, toucher de nouveaux plus historiques. Mais alors vraiment beaucoup plus haut, sur des cours peut-être 4 fois plus élevés que le cours actuel. Peut-être un cours du cuivre pour une tonne de cuivre à 40 000 dollars à l'avenir.
Ah bah oui, parce que bon, c'est le métal phare de la transition énergétique. Et aussi, bah, on a besoin du cuivre hein, pour les data centers avec le boom de l'IA. Alors, 40 000 dollars, c'est dans plusieurs années. Hein, mais on a Goldman Sachs qui avait relevé ses prévisions début mai et établi sur un cours de 12 000 dollars la tonne d'ici la fin de l'année, avant 15 000 dollars la tonne sur l'ensemble de 2025. Mais aussi, il y a l'aluminium qui pourrait suivre le mouvement parce que il peut être, enfin, l'aluminium peut le cuivre peut se substituer exactement à au cuivre plutôt.
Le quoi?
L'aluminium, on peut remplacer le cuivre, ah oui, c'est ça. À part l'aluminium, voilà.
Oui, il y a un gap. Enfin, le cours de l'aluminium est 4 fois inférieur à celui du cuivre. Là, c'est un signal peut-être de potentiel du coup sur l'aluminium. C'est ce qu'on se dit. Ouais, c'est votre point de vue aussi, Kevin?
Oui, enfin, je sais que je crois qu'il y a une tendance très forte sur le front de la demande. Hein. Dans les économies développées, on a assisté à une baisse de la consommation électrique parce que la transition, parce qu'on fait mieux. Sur les 5-10 années à venir, la consommation électrique dans les pays développés, elle va réaugmenter, réaccélérer à cause des data centers. Et puis il y a l'offre. Et l'offre, pour construire une mine de cuivre, il y a 10 ans, ça prenait 5 ans. Aujourd'hui, il y a les nouvelles normes, ça en prend une fois et demie à 2 fois plus.
Et puis on oublie aussi beaucoup dans la demande électrique, la remilitarisation d'un certain nombre d'industries, ça aussi, ça consomme pas mal d'électricité, mine de rien. Et ça participe effectivement des besoins électriques. Merci beaucoup, Kevin Tauzet pour Carmignac nous accompagner. Sabrina Salgui, la famille BFM Bourse.
Merci Guillaume.
À lundi pour de nouvelles aventures. Très bon week-end à tous. Exceptionnellement, BFM Business est bien sûr ouvert, mais pas BFM Bourse. Là, on part en week-end.
On ferme boutique.
Un petit peu plus tôt que d'habitude, une heure plus tôt que d'habitude, puisque les Sœurs Williams, dans un instant, vont s'exprimer. Et on vous propose donc sur BFM Business une spéciale sport business avec Sandra Gandoin et la prise de parole donc des Sœurs Williams sur l'intelligence artificielle. Oui, elles parleront d'IA dans le sport. C'est à vivre juste après la pause, dans 2 minutes. A tout de suite, bonne soirée, bon week-end à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.